Voilà, Galates chapitre 4, et je lis les versets 1 à 12. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé parmi vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frère. Je vous en supplie. Donc, le titre de notre étude ce matin, c'est « Du statut d'enfant à celui de fils ». Hein, l'apôtre Paul se sert d'une image. Hein, il s'adresse aux chrétiens de la Galatie et il traite un problème qui, en fait, c'est un problème qui n'était pas seulement chez eux, mais qui réapparaît même parmi nous, hein, encore aujourd'hui. C'est une tendance naturelle, vous savez, tendance naturelle chez l'être humain, même les chrétiens, malheureusement, de vouloir imposer des lois sur les autres pour mieux les dominer. Cette nature humaine, elle est là. Et on veut, dès qu'on a l'occasion, on aime bien pouvoir s'imposer. La tentation est là chaque fois qu'une personne montre une faiblesse de quelque sorte. Hein, que ce soit une faiblesse physique, là tout de suite, ou que ce soit une faiblesse financière, que ce soit une faiblesse sociale, intellectuel, relationnel, n'importe quelle excuse est bonne. Si on trouve un moyen d'être un peu au-dessus de quelqu'un, on commence à vouloir lui dicter des choses. Et il faut vraiment se retenir. Hein, en tant que parent, on est tenté sur les enfants, en tant que peut-être personne dans la société, on a du monde sous notre pouvoir un petit peu et on est tenté d'aller trop loin. C'est vraiment un problème. Et il y a toujours ce méchant désir de vouloir charger les autres en exploitant leur désir, et ça c'est ce qui arrive dans les églises, en exploitant leur désir de vouloir se préparer pour une meilleure situation ou même pour l'au-delà. Hein, « Ah, tu veux aller au ciel, ben alors tu y feras. » Et on les charge. On les charge plus que ce que Dieu demande. Et on lui donne plein d'ordres qui sont difficiles à garder. Et trop souvent, on le décourage. Et lui, le pauvre, il essaye, il veut arriver. Et finalement, c'est le seul problème de toutes les religions. Hein, on impose des choses et les gens restent toute leur vie dans l'état où ils savent pas s'ils en ont fait assez, s'ils n'ont pu jamais plaire à Dieu, s'ils ont accès, et puis ils partent en espérant. Hein, et une espérance basée sur rien du tout. Et une fois qu'ils sont partis, bien sûr, à l'enterrement, on leur dit, ils sont au paradis. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, j'ai pas encore assisté à un enterrement où on n'a pas dit que le défunt était au ciel. Mais il y en a qui se posent des drôles de questions pendant la vie, hein, donc c'est maintenant qu'il faut, et on le reproche. Et on reproche cela à juste titre, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens se révoltent contre la religion, quel que soit, hein, même le christianisme en général, et même nos églises évangéliques, et même tout ça, on est là, on charge. Et c'est quelque chose qui est très humain, c'est la dimension humaine qui est là, et que Dieu nous en préserve, hein. L'homme naturel se considère comme n'étant pas à la hauteur des attentes de Dieu, donc il veut faire quelque chose pour essayer d'améliorer son état, son statut, son sort, et vous savez, il essaye de se rendre acceptable, hein. C'est le but de toutes les religions, c'est d'apaiser Dieu, hein. C'est ça qu'on veut, ou bien d'apaiser les esprits qui veulent le mal pour qu'ils nous laissent tranquilles. C'est toujours, finalement dans le monde, c'est ça. Et après, il y a ceux qui, ils prennent la solution de l'autruche qui met la tête dans le sable. C'est, je veux rien savoir. Laissez-moi tranquille. Je veux rien savoir. Je vis au jour le jour. Et je comprends ces gens. C'est des gens très bien, hein. C'est des gens qui sont sincères. Mais on leur a fait entendre tellement de choses que, et moi, à leur place, je suis sûr que si j'avais entendu ce qu'eux, ils ont entendu toute leur vie, eh bien, j'aurais la même réaction. Ces gens-là, je les comprends. Hein, le terme qu'ils emploient, c'est « je suis athée ». Mais ils ne sont pas athées. Mais ils ne sont pas croyants dans le Dieu qu'on leur a présenté. C'est ça, le problème. Et j'ai beaucoup de peine pour eux. Et on en a besoin, parce que le vrai évangile leur apporte quelque chose. Et ils ont quelque chose, il a quelque chose pour eux. Jésus a reproché aux scribes et aux pharisiens dans leur hypocrisie. Il leur a dit, et je lis, hein, c'est dans Matthieu 23. Il dit, il parle d'eux, il dit, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas me remuer le doigt. Eux, ils chargent, mais eux, ils font rien. » Il dit aussi, ils font toutes ces actions pour être vus des hommes. Il ajoute, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Il dit, vous provoquez des réactions, et c'est malheureusement, c'est souvent arrivé. Et même des gens qui ont été à l'église et tout ça, puis il y a un moment, je ne veux plus, parce que, et ce n'est pas la faute de l'évangile, c'est plutôt la manière dont on leur a enseigné, on leur a mis un fardeau pesant qui les a dégoûtés. Et donc, moi, j'ai plus de la compassion et de la pitié pour ces gens-là, et j'aimerais qu'ils me laissent, qu'ils permettent au Seigneur de leur parler, mais donne-moi du vrai. Hein. Et le problème dans ces églises de la Galatie, c'est que ces gens avaient reçu le Seigneur, et après il y a du monde qui est arrivé derrière, des judaïsins, et qu'on commence à leur charger la loi de l'Ancien Testament. Ces gens qui avaient choisi de suivre Christ se retrouvent en train de garder la loi de Moïse. Et puis ils les chargent. Mais vous savez, aujourd'hui, ça arrive aussi. Personne, viens au Seigneur, c'est gratuit, te reçois, alléluia, gloire à Dieu. Et puis une fois qu'ils commencent à venir en église, ah, bah, tu fais pas ça. Et puis comme ça, il faut faire ça, Wow, c'est lourd tout ça. Et puis si tu ne fais pas bien, hein, il faut le faire bien. Oh. Et puis il faut que ce soit la gloire de Dieu, hein, et pas pour toi. Hein, et puis après on arrive à des endroits où c'est vraiment l'extrême, où tu fais ça, mais finalement celui qui en profite le plus, c'est celui qui dirige. Hein. Si vous ne croyez pas, allez sur YouTube, il y en a plein. Hein, Et c'est ce désir, et ce qui est terrible, encore si on le faisait au nom du diable, c'est une chose, Mais quand on le fait au nom de Dieu, hein, et on se déclare serviteur de Dieu, puis après on le fait au nom de Jésus-Christ, et puis on charge les gens, et on leur fait vivre quelque chose qui n'a rien à faire avec l'Évangile. Donc c'est un peu le problème de ces chrétiens de Galatie. Juste pour donner un peu l'arrière-plan, hein, et j'ai trouvé ça intéressant. Bon, la Galatie, c'était une province romaine, hein, mais la population était originaire de la Gaule. Vous savez où c'est la Gaule, hein? C'est les Gaulois, hein, et ils avaient une culture celte. Mais certains ont voulu chercher quelque chose, et puis ils ont été vers l'Est. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent en Asie mineure, et là ils ont trouvé une zone, hein, 300 km de long, assez large, fertile, puis en plus c'était sur des voies commerciales, c'était bien situé pour pouvoir se faire une bonne vie. Et c'était des gens qui étaient très ouverts. Hein, les Romains s'étaient imposés, mais c'était des gens ouverts à de nouvelles idées, ils étaient prêts à changer. Et finalement, les Romains aussi avaient, parce que c'était très commercial, tout ça, les Romains, et puis comment les Romains voulaient un peu disperser les Juifs, parce qu'ils leur faisaient beaucoup de problèmes, et donc ils en avaient amené plein ici dans cette région-là, de la Galatie. Et donc, ils ont eu leur influence sur la population. Et ils étaient un peu préparés, et quand l'apôtre Paul arrive dans la Galatie, il prêche, et le message de l'Évangile est bien reçu. Il y a une préparation, le judaïsme a préparé pour justement ce Dieu, et qui ne se voit pas, mais qui est le créateur des cieux et de la terre. Et donc, l'apôtre est venu, mais c'est des gens qui étaient tellement ouverts, bien sûr, ils ont reçu l'Évangile. Mais après qu'ils ont reçu l'Évangile, eh bien après il y a d'autres qui sont arrivés derrière et puis ils les ont suivis aussi. Hein, vous savez, c'est une chose qui arrive encore de nos jours. Hein, il y a des gens, le Seigneur les sauve, les enlève d'une certaine vie, ils arrivent dans l'église, ils sont là 2-3 ans, puis après, ils entendent quelque chose de la part là-bas, ils entendent quelque chose par là-bas, c'est plus excitant, c'est plus intéressant, c'est plus, là ça bouge, là-bas c'est chiant. Et puis ils partent, ils sont attirés par d'autres choses. C'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, eh bien, il dit au chapitre 1, verset 6, et c'est comme ça, c'est tout au début de son épître, il l'introduit, et au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Il dit « Je m'étonne comment, après vous avoir reçu l'évangile qui vous a délivré, qui vous a donné ce statut nouveau, et bien maintenant vous vous laissez emporter par des gens qui vous parlent, des beaux parleurs, mais qui en fait qui sont en train de vous mettre dans un autre esclavage et vous ravir ce que vous avez acquis en Christ. » Il dit ça m'étonne. Et puis il le dit, et puis si rapidement, encore, c'est même pas progressif, c'était très rapide. C'était pendant sa vie que c'était arrivé, c'était pendant son ministère. C'est une chose, on voit dans l'histoire de l'Église, on voit des mouvements qui commencent très bien et qui vont très bien, mais au fur d'un siècle ou deux, ça commence à se diluer, hein, c'est comme la Seine, hein, c'est à la source, c'est une eau buvable, mais bon, après, ça commence à charrier beaucoup de choses. Et le christianisme fait ça aussi, et chaque fois, il y a des nouveaux mouvements avec de bonnes intentions, qui ravivent la foi, la flamme, et qui repartent, mais avec le temps. Mais là, il a dit, mais ouh, ça a été vite. Il dit, ça m'étonne. Mais, vous savez, aujourd'hui aussi, hein, il y en a qui sont à peine s'ils ont reçu le Seigneur, et puis alors, de suite, et parce qu'on a des moyens de voir, et puis on va vite, il y a quelque chose là-bas, j'ai été visiter là-bas, j'ai été voir là-bas. Ou là-bas, c'est fou. Comme une personne qui m'a dit, ça pète le feu, ça bouge, hein, y a des choses qui arrivent. Hein, une fois, il y a quelqu'un qui a dit, à vous les baptistes, je vous admire, parce que vous ne voyez jamais rien se passer et vous croyez toujours. Je vous admire. Ben, merci pour le compliment. Voilà. Mais c'est pas un enterrement, la vie chrétienne, c'est sûr. Hein, c'est pas, mais restons fidèles à ce que le Seigneur a. Hein, c'est pas ce que je vis, et je le dirai encore à la fin, c'est pas ce que je peux avoir d'excitant à vivre, mais c'est la relation que je développe qui est importante. Hein, et le message de l'Évangile, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire du fils prodigue, ce que le père recherchait, c'est la relation. Il y avait un fils qui était là, mais il ne lui parlait jamais. Il préférait être avec ses copains. Après, il y a celui qui est revenu, et qui a voulu être avec lui, qui est revenu, et là, il l'a reçu. Hein, c'est ça qui fait plaisir. Le Seigneur dit, peu importe par où tu es passé, ce que je veux, c'est que tu viennes à moi, tu viennes avec moi, tu me désires moi. Le fils n'a pas demandé « je veux ceci, cela », il a dit « je veux juste un peu de pain pour hein, que je sois le dernier chez toi, mais au moins j'ai du pain tous les jours, mais c'est, je veux être avec toi. » Alors l'apôtre Paul explique cela, exprime cela, il dit « voilà ce que je pense de ce que vous avez fait. Hein. » Il dit « moi, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Vous avez été délivré d'une... Peu importe que ce soit la religion ou pas de religion, ou que ce soit... Peu importe de quel genre de... parce que tout le monde s'impose un mode de vie. Certains, leur religion, c'est de s'interdire tout ce qui est religieux. Hein, c'est la règle chez eux. Et elle est stricte. Hein, et puis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui leur parle de Dieu, ils hérissent le poil. C'est, vous savez, il dit, je vous ai parlé, c'est pour vous libérer, pas pour vous mettre sous une servitude. Et donc, ce que nous devons nous assurer, c'est que lorsque, moi je ne dis pas que c'est la vérité, c'est chez Steve Barnes, c'est pas vrai. Je dis, il faut s'assurer que c'est biblique, que c'est l'enseignement de la Bible. Peu importe comment le serviteur s'appelle, pas plus que vous, quand vous mangez votre soupe, vous regardez la marque de la cuillère. Hein, ce qui importe, c'est la soupe. Et donc, il dit, assurez-vous que c'est l'enseignement qui est biblique. Et que l'effet de cet enseignement, eh bien, c'est quelque chose qui vous encourage à vivre selon le Seigneur et qui nous encourage à progresser. Hein? Et progresser nous édifie et on va de progrès en progrès. C'est le mot qui englobe tout cela, c'est la sanctification. C'est-à-dire, c'est devenir saint. Hein? C'est une image que j'aime beaucoup. C'est depuis le jour où j'ai compris le principe de la pétrification. Hein, c'est un phénomène qui se fait. J'ai pu visiter une fois une forêt pétrifiée aux États-Unis et il y avait toutes ces souches d'arbres, mais on dirait des souches d'arbres allongées, mais quand on arrivait, c'était de la pierre. En fait, c'était au fur et à mesure que les cellules organiques partaient, se décomposaient, eh bien, un grain de sable s'installait. Et au fur et à mesure, la souche est devenue de la pierre. Et à n'importe quel endroit, on pouvait compter l'âge de l'arbre. Hein, c'est extraordinaire. L'arbre était là, on pouvait le reconnaître, mais c'était de la pierre. Mais vous savez ce que Dieu veut faire dans nos vies? C'est l'Évangile travaille, et petit à petit, hein, ce qui est de la chair, il enlève, et puis il remplace par quelque chose qui est de l'esprit. Et finalement, vous gardez votre même apparence, hein, votre personnalité, vous la gardez, parce que c'est ce que Dieu nous a donné à l'origine, mais tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de péché, est enlevé et remplacé par ce que Christ nous donne. Et donc, j'invente le mot la christification. Hein? C'est petit à petit, hein, progressivement. C'est pas en une nuit que ça arrive. Ne vous faites pas d'illusions, hein, ne soyez pas déçus. Mais c'est progressif. Est-ce que Dieu est en train de faire, hein, est-ce que vous ressentez dans votre vie cette christification? Et vous voulez vous retrouver là parmi ceux qui le vivent. Hein? Donc, le Seigneur, l'Église n'est pas composée de monuments, l'Église est composée de personnes vivantes. Hein? Et donc l'apôtre Paul vient, il va prendre une illustration pour essayer de les encourager et pour leur faire comprendre ce qui leur arrive. Parce qu'eux, ils sont assez contents d'eux. Hein? Donc, il veut leur parler. Et alors, il prend une illustration. C'est un phénomène qui existe dans toutes les cultures. Hein. Il y a une équivalence de cette image qu'il veut employer. C'est où l'enfant passe du statut enfant au statut d'adulte. Hein, c'est partout, toutes les cultures, ils ont quelque chose. Hein, parce que l'enfant n'est pas responsable, l'adulte est responsable. Hein, donc... Et lui, il va prendre une image de la société romaine, puisqu'elle était là, c'était une province romaine, il connaissait, donc il s'est servi de ça. Équivalent dans une famille juive, par exemple, le garçon est garçon jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il célèbre sa bar mitzvah, et à ce moment-là, il devient un homme religieusement mature, et il peut participer dans la synagogue. En France, t'es mineur, et puis tout d'un coup, t'es à 18e anniversaire. Et en une nuit, tout d'un coup, t'es adulte. Tu peux voter, tu peux te prononcer, tu fais tout ce que tu veux. Il y a un moment, hein, c'est décidé, hein, un moment où tu n'es pas responsable, quoi que ce soit, de ce que tu fais, et hein, tout d'un coup, tu es responsable. Hein, c'est... Et y a un moment. Hein, en France, c'est le 18e anniversaire. Dans d'autres cultures, ça peut être plus tard. Ça peut être, bon. Mais toujours, il y a un moment où l'enfant, il passe de enfant à homme, hein, ou adulte. Et donc l'apôtre Paul se sert de cette image-là. Et il parle de celui qui passe du statut népios, hein, d'enfant, hein, petit enfant, innocent, et il passe à celui de huios, qui est le fils. Et tout d'un coup, il passe de mineur, hein, c'est parce que c'est mâle, c'est pas mineur, et il passe à l'état de majeur. Hein, il y avait aussi ce fait, aussi dans la culture romaine, il y avait la possibilité de un maître romain de choisir un de ses esclaves. Le statut d'esclave, c'est bon, on a toujours ces idées négatives, je ne vais pas rentrer dans la culture, mais chez les Romains, il y a ces esclaves qui finalement étaient dans la société, et alors ils pouvaient, l'homme. Plutôt que de prendre son fils, ou s'il n'avait pas de fils, ou il ne voulait pas donner ça parce qu'il n'aimait pas la femme, donc il n'aime pas le fils. Dans tous les cas, il pouvait prendre un esclave, racheter sa liberté, hein, racheter et le libérer, et après le nommer héritier. Et c'était tout à fait possible, et ça se faisait régulièrement. Donc c'était une personne de confiance, et c'est à lui qu'il voulait confier tout son héritage. Et donc, c'est un peu cette idée-là que l'apôtre Paul reprend pour illustrer, en fait, l'œuvre de Dieu en nous. Et donc, d'abord, l'apôtre Paul, ici, dans Galates chapitre 4, il illustre deux, trois choses concernant l'enfant. Il nous rappelle que l'enfant, ben, finalement... Il ne décide de rien dans sa vie. Hein. L'enfant, eh ben, il est là. S'il ne suit pas les ordres, il a des problèmes. Hein. Ça se gâte pour lui. Hein. Donc, il doit suivre des ordres. Il doit suivre les instructions des autres. Hein. Il doit vivre selon les règles qui lui ont été enseignées. Et il n'a pas la possibilité de les remettre en question. Il ne discute pas. C'est comme ça. C'est décidé pour lui. Ça, c'est le statut d'un enfant. Et bah, il doit même parfois obéir à des personnes qu'il n'a pas choisies, qui lui ont été imposées. Hein, et ça arrive encore aujourd'hui. L'enfant, il est là, puis après, il est confié à une crèche, et après, il est confié à une institut, et puis après, il est confié à un directeur, et puis après c'est employeur, et tout le temps il y a des choses qui sont des autres qui décident. Et il dit ça, c'est le statut de l'enfant. Hein, il dit, et puis alors l'apôtre Paul va dire, vous savez, finalement, il se retrouve dans la même situation qu'un esclave. Hein, il décide de rien et il fait ce qu'on lui dit de faire. Il se couche quand on lui dit de se coucher, il se lève quand on lui dit de se lever. Finalement, c'est le statut de l'enfant. Et ça, c'était, il dit, voilà. Et il compare, en fait, notre vie passée, hein, en tant que n'ayant pas le Seigneur, comme ça. Nous vivions à la merci d'une religion, de certaines règles, de certains. Et on n'avait pas le choix, ça ne se discutait pas, c'est comme ça. Hein, chez nous, on est de ce mouvement, on est de cette religion, on est comme ça, et voilà comment on fait. Hein, jusqu'à un certain point, l'enfant, il suit les parents, et c'est très bien. Et il nous dit au verset 8, hein, donc à chapitre 4, verset 8, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Il a dit « Vous serviez des dieux, mais finalement, ce n'était même pas des dieux. Vous étiez complètement à côté. Et c'était votre vie passée. Vous viviez pour des choses qui finalement n'ont aucune valeur. » Et Paul ajoute, il dit en plus, vous viviez sous le poids de ce qu'il appelle des principes élémentaires. Et les théologiens discutent pas mal sur le sens de ces principes élémentaires. Je crois qu'il a laissé vague, il a pris un terme vague, parce que comme ça touchait tout le monde, qu'il soit sous le judaïsme, qu'il soit sous une autre religion, il y a toujours, quelle que soit la religion, il y a des principes élémentaires. Hein, même l'athée a des principes élémentaires pour lui. Hein, il dit, moi j'ai mes principes, j'ai mon... Et il se les impose, et c'est comme ça qu'il décide sa vie. Et si on veut marquer la rébellion, ben on va contre ces principes. Hein. S'il n'y avait pas des principes élémentaires, ce serait difficile d'être rebelle. Hein, c'est rebelle contre quoi? Il faut être rebelle contre quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose, c'est imposé, et puis après on réagit. Et donc, maintenant, il dit, ces principes, peut-être, ils n'étaient pas toujours ce qu'ils devraient être. Ils n'étaient pas des bons, c'était des gens qui les ont imposés, c'était pour plaire à quelqu'un, il y avait toutes sortes de motivations. Et quelqu'un a même peut-être abusé de vous, et il y a des abus de confiance dans ce domaine-là aussi. Et il dit, non, ça ne va pas. Mais ça, c'est l'enfant, il subit ça. Hein, et tous n'ont pas la même enfance. Et parfois, certains ont des mauvais souvenirs de leur enfance. Hein, parce que... Et donc, il dit, c'est là où vous étiez. Hein, vous étiez dans une situation de laquelle vous ne pouviez pas vous extraire. Hein, le père que vous avez eu, vous n'avez pas choisi. La mère que vous avez eue, la situation, la maison dans laquelle vous êtes né, c'est vous qui l'avez choisi. C'est des choses qui ont été imposées, et elle avait ses règles, et il y avait ses principes, et il y avait ce que vous avez souffert. Il dit, ça, c'est d'accord. Hein, c'est, finalement, oui, vous avez vécu comme un esclave vie. Et il dit, et surtout que vous deviez vite éviter tout ce qui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et surtout, après, il faut essayer de respecter, il faut faire ceci, il faut faire cela, hein, pour être bien vu, pour que on parle de nous gentiment, pour on parle de nous en disant que tu es bien, tu as réussi, tu as approuvé. Tu rentres dans le cadre. Il dit, c'est ça le principe, et c'est l'enfant, et bien c'est son statut, c'est sa vie, il ne peut pas faire autrement. Et il a de gros soucis s'il ne l'accepte pas. Mais alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a un moment, et Dieu aussi offre à l'homme un moment où il peut passer de ce statut-là à un nouveau statut. Il dit, c'est comme si c'était le statut enfant, ce que vous étiez naturellement, c'est le statut enfant, et je vous permets d'avoir le statut de fils, avec Dieu. hein, de l'avoir, une relation filiale avec, avec le Père Céleste. Et dans la société romaine, eh bien, c'était pas un âge précis, c'était quand le père décidait. Hein, donc ça, il pouvait avoir 18 ans comme il pouvait avoir 25 ans. C'était le père qui décidait. Et un certain jour, il déclare, celui-là, c'est mon fils. C'est un fils pour moi. C'est lui qui le décidait. L'enfant n'avait pas aucun choix. C'est le père qui le décidait. Et quand il était déclaré fils, il était déclaré l'héritier. Et tout d'un coup, il n'est plus sous les contraintes de l'enfance. Bien sûr, être libre, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'on se comporte de manière responsable dans le statut, le nouveau statut que nous avons. Hein, c'est ça. Hein, un adulte, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut, même s'il y en a beaucoup qui le font. L'adulte, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est l'adulte qui se comporte comme un adulte, comme une personne responsable et qui assume sa vie. Hein, donc, aujourd'hui, l'équivalent de ce jour-là, et c'est le jour où justement, Dieu a préparé ce jour, et il a envoyé son fils. Et il nous dit mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, hein, c'est verset 4, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, il nous dit, vous ne m'apparteniez pas. Hein, vous étiez comme des esclaves, vous n'aviez aucun droit à la maison, ni rien du tout. Hein, mais, il y a un moment précis, eh bien, j'ai fait le nécessaire. Et l'une des œuvres nécessaires, c'est d'envoyer Jésus-Christ, qui devient homme, qui meurt sur la croix, pour prendre sur lui notre péché, notre culpabilité, afin de pouvoir écarter l'obstacle. Hein, c'est un peu le maître qui veut adopter l'esclave. Il va d'abord, il doit payer le prix de la libération. Et ensuite, il le déclare son fils. Il peut pas, en tant qu'esclave, il ne peut pas le déclarer fils. Il faut d'abord le libérer, parce que seuls les hommes libres peuvent être fils. Et il nous dit, mais Dieu a fait la même chose finalement. Hein, Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ est mort, et c'était le prix de notre rachat, hein, c'était le prix de notre libération, c'est le prix de notre libération dans le sens que le péché a été expié, payé, et nous sommes libres devant Dieu. Et alors il dit, après là, il a pu dire, bon maintenant que tu es, cet obstacle est écarté, maintenant que tu peux être enfant de Dieu, eh bien maintenant, en fait, il dit, je te déclare fils, je mets en toi l'Esprit de Dieu. Mon esprit est en toi. Et c'est le jour où nous avons ce statut de fils devant Dieu. Hein? On n'emploie pas trop l'expression que nous sommes des fils de Dieu, mais du point de vue relation, nous le sommes. Hein, on aime plutôt dire les enfants de Dieu, mais le statut juridique, c'est que nous sommes fils. Hein, il y a une relation filiale, il est notre père, on a le droit de l'appeler père, il nous appelle ses enfants. Ce statut est là. Et alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas l'être par notre naissance naturelle. Hein, c'est pas parce que je suis né, peu importe la famille et comment elle s'appelait, et ce qu'elle avait comme nom, hein, je ne peux pas, ma naissance naturelle ne me donne pas accès à la maison de Dieu. Les enfants du voisin, ils ne rentrent pas chez moi que n'importe comment. Hein. Mes enfants, hein, j'avais ma fille là cette semaine, bah elle a le droit de rentrer dans la maison. Hein. Elle, c'est ma fille. Tandis que le voisin, qui est peut-être aussi gentil qu'elle, mais lui, il n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas chez lui, ce n'est pas son père, ce n'est pas la maison de son père. Et vous savez, je peux être tout ce que je veux, mais si je n'ai pas été racheté par le sang de Christ, et que là, il me déclare son enfant, et une fois que je suis déclaré son enfant, après, j'ai tous les droits. Hein? Après, c'est pour ça que nous sommes confiants d'aller un jour dans la présence du Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons été rachetés, cette démarche a été faite, et maintenant, il nous a déclaré, il a placé en nous l'Esprit de Dieu qui crie quoi ? Abba, Père. C'est-à-dire, c'est le témoignage qu'il n'y a que les fils qui peuvent le dire. Hein, quelqu'un d'autre n'a pas le droit. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent dire « Père ». Les disciples ont dit « Mais comment ça s'adresse à Dieu ?» Il dit « Ben, il dit, c'est un truc qui n'existait pas avant, mais depuis que je suis là, ça existe. Vous dites « Notre Père ». Les enfants d'Israël, ils n'appelaient jamais « Père ». Pour eux, c'était toujours l'Éternel, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Mais là, en Jésus-Christ, parce que la démarche a été faite, et on a été rachetés, et après il nous déclare ses enfants, il nous déclare, c'est lui qui le déclare, c'est pas parce qu'il dit pas ben, parce que tu as été gentil, parce que ceci, cela, non, il dit parce que je le veux. Mais, bon, l'enfant doit l'accepter. Hein, l'esclave, là, il dit, écoute, je vais te racheter, je vais te libérer, je vais faire de toi mon Dieu. Ah non, laisse-moi tranquille, je préfère rester où je suis. Eh bien, ça ne se passe pas. Et parmi les humains, c'est pareil. Dieu dit, écoute, voilà ce que je te propose, je voudrais te racheter par le sang de mon fils qui a été déjà versé sur la croix, je veux faire de toi mon enfant et je veux que tu viennes chez moi. Alors après, ben je peux dire, ah non, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester où je suis, comme ça, parce qu'il y a des choses que j'aime faire encore, et j'y tiens encore, mais si je dis oui, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne me sens pas digne, hein, c'est un peu ce que j'ai entendu dans les prières tout à l'heure aussi, je ne me sens pas digne, mais puisque, si toi tu le veux, moi je veux bien, hein. Et nous pouvons rentrer et faire partie de la famille de Dieu. C'est une belle chose. Et l'apôtre Paul prend ça parce qu'il dit que ce soit un enfant né dans la maison ou que ce soit un esclave, c'est le Père qui décide et qui fait le nécessaire, qui choisit le moment pour que nous devenions ses enfants. Et donc donc il est en train de dire, écoutez, vous savez, le jour où vous avez reçu Christ comme sauveur, eh bien vous avez été libéré de ce statut d'esclave, d'enfant sans droit, et vous avez été déclaré fils. Maintenant, ne retournez pas à ce statut-là. Qu'est-ce que vous faites? Ne retournez pas à la vie que vous aviez avant. Vous avez été libéré. Donc, dans Galates chapitre 4 et verset 5, eh bien, je relis ce verset, il dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, hein, donc c'était encore sous la contrainte, afin qu'il rachète, vous voyez le mot « racheter », afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » L'adoption, c'est devenir fils. Et en plus, il dit, et pour que tu on vienne pas t'embêter avec cela, tu sais, je mets le Saint-Esprit en toi, et lui crie « Abba, Père ». Lui, c'est sûr que Dieu l'entend. Même dans Romains chapitre 8, versets 14 et 15, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Donc ici dans Galates, il dit « L'Esprit crie « Abba Père » et il dit « Et aussi dans ce nouveau statut, vous pouvez crier « Abba Père ». Et pourquoi ? Il n'y a que les fils qui peuvent le faire. Hein? Et donc, c'est pas une manière d'essayer d'attirer ça. Je peux, j'ai cette relation Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une question de trouver quelque chose qui vous plaise, c'est une question de où est-ce que je peux travailler cette relation filiale avec le Père, parce que je veux mieux le connaître, je veux être plus près de lui, je veux penser comme il pense. Hein, c'était ça le problème des deux fils dont on a lu tout à l'heure. L'un des fils, il n'était pas aligné sur les pensées du Père, tandis que l'autre s'est aligné sur les pensées du Père. Et donc, ils ont été la communion. Et cette histoire se termine comme ça abruptement, hein, dans Luc 15, mais avec le fils prodigue dans la maison, l'autre frère est dehors dans les ténèbres, et l'autre, il est dans la maison avec la musique et la joie, et c'est comme ça que ça se termine. Hein, et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et donc, si nous avons reçu Jésus-Christ, hein, si un jour nous avons placé foi en lui, eh bien, il dit, eh bien, c'est parce que tu as accepté le fait que je te rachète, tu as cru, hein, quand j'ai dit que je te rachète, je te libère du poids de ton péché, tu n'as plus à le payer toi-même. Tu n'as plus à essayer de rembourser quelque chose, tu ne pourrais pas n'importe comment, mais je te libère et je te déclare mon enfant. Et je veux que tu sois avec moi. C'est pour ça que Jésus a pu dire, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ce n'est pas du peut-être, c'est vous soyez aussi. Hein, je viens vous chercher, je vous emmène, vous avez votre place. Vous êtes enfant. C'est Paul qui dit aux chrétiens de Rome, c'est encore dans le chapitre 8, verset 17, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » C'est-à-dire que nous avons accès à tout ce que Christ a. Il est présent dans la présence de Dieu, nous pourrons l'avoir aussi. Tout ce qu'il a, parce que nous sommes en lui, donc tout ce qu'il a, nous pouvons l'avoir. Et il dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, donc cette identification à lui, même dans sa souffrance, afin d'être glorifié avec lui. » Il dit, tu ne peux pas l'oublier, l'ignorer maintenant, et puis penser que tu seras avec lui, même. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Hein? Si tu es avec lui, tu es avec lui, là où il va. Hein? Ma femme, elle me dit, j'ai dit, heureusement que tu ne savais pas où, partout où je t'emmènerais. Hein? Tu as vécu des expériences, que tu as visité des endroits, et tu as vu des choses. Elle dit, oui, mais bon, je vais être avec toi. Si on peut dire ça pour un homme, hein, vous connaissez cet homme-là, hein, si elle peut dire ça pour ça, combien plus on devrait pouvoir le dire pour Jésus-Christ, hein. Lui, on peut faire pleine confiance. Hein, là où tu vas, je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Là où tu vas, je veux être avec toi. J'ai pleine confiance en toi. Vous savez, nous ne pouvons pas, donc, vu tout cela, mais comment vouloir retourner à notre ancien statut, à notre ancienne manière de vivre. Hein, et je relis ces versets, hein, versets 8 et 9, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Si notre vie se définit par des règles plutôt que par une relation, eh bien, quelque chose n'y va pas. La vie chrétienne, c'est pas « Ah, ben nous, dans notre église, dans l'église chez nous, là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Non, non, c'est pas comme ça. C'est la relation avec Dieu. Hein? Et vous occupez pas de Steve, ce qu'il pense, c'est ce que le Seigneur a pour vous. Et c'est beau et c'est très bien. Et nous devons lui faire confiance. Et donc il dit à ces Galates, il dit, écoutez, je ne comprends pas comment vous avez pu être trompés pour repartir dans quelque chose contraire à ce que vous aviez. Vous aviez été sauvés de cela. Donc continuez, épanouissez-vous dans cette nouvelle vie, cette vie d'adulte. Hein? Je sais que de temps en temps, il y en a qui disent « Ah, oh, c'était pas mal quand on était enfant. Là, les repas sont servis, tout est servi, on n'a pas besoin de se soucier ni de l'électricité, qui va payer l'électricité, qui va faire ceci, c'était tout. » C'était pas mal à l'époque. Mais à l'époque, on ne disait pas ça. Mais il dit non, c'est responsable. C'est le plaisir d'être responsable et finalement on n'est pas seul, mais on a le Seigneur avec nous. Et à tout moment, hein, comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous aide même à formuler nos requêtes, nos prières. Il nous aide. Nous, c'est comme un bébé nouveau-né qui, il faut quelque chose, mais il ne sait pas le dire, donc il hurle. Il dit non, mais le Saint-Esprit sait transformer vos hurlements, leur donner un sens pour que le Père vous l'apporte. Il dit, c'est ça, c'est quand on est fils, on a ça. Quand on n'est pas fils, c'est bien après, on prie tout autrement. Les gens, les autres, ils disent, oh Dieu, s'il te plaît, sois apaisé envers moi, je regrette, pardonne-moi. C'est des prières de quelqu'un qui espère avoir quelque chose. Mais l'enfant de Dieu, il prie autrement. Il prie avec confiance. Il dit, papa, j'ai faim. Et il sait que papa va lui donner, pas une pierre, mais du pain. Et même, et très souvent, il y a même du beurre sur le pain. Hein, le Seigneur prend soin de nous. Chacun de nous, on n'a pas, peut-être pas le même sort dans la vie. On ne vit pas la vie de la même manière, mais on a la même relation. Tous les enfants de Dieu sur la terre, peu importe là où ils vivent et la culture et tout ça, s'ils sont enfants de Dieu, ils ont cette relation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand je voyage, je vois, on rencontre quelqu'un qui est dans le Seigneur, tout de suite, on sent, on est du même sang. Hein, il y a le sang de Christ. Hein, on ne sait pas parler la langue et tout ça, on dit Alléluia, ouh, là, tout d'un coup, on est frères et sœurs. C'est extraordinaire comment ça marche. Et je me rappelle qu'une fois, on a été pour un mariage, on a été au Portugal. Et alors, le dimanche, on cherchait une église. Ben, c'est du portugais. Hein, ben, bon, mon portugais, il ne va pas loin. Hein. Mais c'était un plaisir d'être avec eux. On avait l'impression d'être c'est des frères et sœurs. Et leur joie, c'était notre joie, même si on ne comprenait pas les mots. Et c'était un plaisir. Et on l'a recherché et d'être avec eux. Et puis après la réunion, on a commencé à se parler comme on pouvait. Et puis, il y avait quelques mots d'anglais, quelques mots de français, quelques ceci, cela. Mais on a pu partir heureux d'avoir été ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce statut de fils de Dieu. On a cette relation filiale avec Dieu. Et on a été racheté par ce même sang. Et c'est ça le message. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça, ça vient après Noël ? À Noël, on a fêté la naissance de Christ. Jésus est devenu, il a dit, né d'une femme, hein, l'homme, né d'une femme, né sous la loi. Donc, né il s'est mis dans le statut où j'étais, afin de pouvoir me libérer de ce statut-là et me donner un nouveau statut, une relation avec Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et c'est ça que je dois vivre, et je veux le vivre toute l'année. Et dans ce sens-là, bien, le message de Noël, finalement, ça continue jusqu'à Pâques, et puis après, au-delà de Pâques, et jusqu'au retour de Christ. Et donc, que le Seigneur nous aide à vraiment vivre cette vie nouvelle dans le Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants de ce que tu as pris l'initiative de désirer faire de nous tes enfants. Tu as compris le problème, tu as proposé une solution, tu as payé le prix, tu nous as racheté le sang précieux, un grand prix, tu nous as payé un grand prix pour nous montrer combien tu nous désirais. Et Seigneur, c'est ce même prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Tu n'as pas considéré ce que nous valons sur terre, tu as considéré ce que nous valons à tes yeux. Et tu as donné le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et après, nous ayant libérés, tu as dit, maintenant, je veux que tu sois mon fils, tu sois héritier, mon héritier, je veux que tu viennes là où je suis. Ce monde, il est en train de se détruire, et le monde est en train de le détruire, et tout ça, mais notre avenir n'est pas ici. Je prépare quelque chose pour vous, pour l'éternité. Et Seigneur, ce n'est pas juste des pensées pour nous faire subir la vie, ce sont des réalités, parce que toi, tu ne trompes pas. Autant un père terrestre désire des bonnes choses pour ses enfants, mais n'est pas toujours capable de le fournir. Mais toi, tu peux donner tout ce que tu désires pour tes enfants. Tu peux nous l'accorder. Merci pour cette réalité. Seigneur, aide-nous maintenant à ne pas retourner dans notre ancien statut et de retourner à notre ancienne vie comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Mais Seigneur, nous voulons aller de l'avant, la croissance et vivre pour toi. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse et que par ton esprit qui agit en nous et qui nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur, que cette réalité soit agissante en nous et nous purifie et nous sanctifie. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. C'est un cantique que je voulais proposer, hein. C'est le 338, mon cœur joyeux et plein d'espérance. Hein, c'est vraiment l'état dans lequel nous nous trouvons. On va essayer de chanter une strophe, on va voir si ce n'est pas trop triste, parce que c'est un chant joyeux quand même.